Maintenant, je remercie Xavier Accard de bien vouloir venir à son tour.
Il y en a d'autres. Il y en a d'autres.
Donc, Xavier Accard est d'ailleurs, comme tous les intervenants précédents, issu de l'EPHE, puisque c'est bien à l'EPHE que vous avez fait un doctorat sur René Guénon. Donc, publié sous le titre Guénon, le renversement des clartés, influence d'un métaphysicien sur la vie littéraire et intellectuelle française, 1920-1970. Et vous avez par ailleurs écrit d'autres textes sur Guénon et sur d'autres sujets du reste. Et notamment, et c'est quand même une singularité, vous avez écrit un roman où interviennent justement des personnages ici de notre panorama spirituel, les dormants d'Éphèse. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de traiter d'un sujet qui est bien délicat et qui, je pense, intéressera pas mal de monde ici présent.
Oui, j'ai accepté en fait de faire cette communication, même si j'ai un petit peu quitté la recherche pure. C'était un peu pour rendre hommage à Corbin ou pour payer une dette, parce que je l'ai découvert quand j'avais 20 ans, justement, avec la section des sciences religieuses. J'avais fait un mémoire sur le Graal et je voyais tous ces... Il y avait Gilson, il y avait Corbin, il y avait Eliade, il y avait Dumézil, et tous ces gens étaient à la cinquième section de l'EPHE, ça me fascinait. J'avais aussi découvert l'Université de Saint-Jean de Jérusalem, et je me souviens, à l'époque, il n'y avait pas Internet, c'était au début des années 90, je me souviens être allé à Paris à l'adresse postale qui avait marqué sur les cahiers de Saint-Jean de Jérusalem, avoir sonné pour... mais en fait, il y avait déjà plus rien depuis très longtemps. Alors, la concierge m'a regardé avec un air un peu inquiet. Voilà, bon. Et puis après, j'ai rencontré Antoine Fèvre qui avait bien connu Corbin. Donc, c'était un peu pour payer une dette envers Henri Corbin. En 1976, un doctorant canadien du nom de Richard Pickrell écrivait à Corbin pour lui demander ce qu'il pensait de l'œuvre de Guénon et s'il avait eu une influence sur lui. Corbin lui répondit une lettre d'une page qu'il commençait ainsi. « Savez-vous que vous me posez une question assez délicate sur laquelle il conviendrait mieux que je m'explique moi-même le moment venu ?» Et après avoir apporté des éléments de réponse, il terminait en insistant sur son désir que lui soit communiqué tout texte qui pourrait s'inspirer de cette lettre afin qu'il puisse s'assurer qu'aucune expression ne dépassât sa pensée. Ce qui montre que Corbin prenait cette question au sérieux. Alors pour y répondre, j'avais fait une communication il y a 20 ans maintenant, en 2001, il y avait un colloque pour les 50 ans de la mort de Guénon à l'Institut du Monde Arabe, et je m'étais appuyé, mes recherches m'avaient amené à m'appuyer sur trois textes essentiels. Le premier, en fait, c'était le premier article qui est signalé dans la biographie de Corbin, qu'il a écrit sous le pseudonyme de Trangny dans la tribune indochinoise, organe d'étude et de combat pour l'Indochine autonome. Bon, c'est un peu mystérieux pourquoi il a écrit ça là. Et j'avais été très heureux de voir qu'au cœur, en fait, de ce premier article, il était question de Guénon. Et puis ensuite, en épluchant la revue de métaphysique et de morale, j'avais découvert une lettre de Corbin en 1963 à la rédaction où il critiquait les critiques, enfin, il répondait aux critiques d'un guénoniste pakistanais qu'il avait attaqué. Et puis enfin, je m'étais basé sur de la théologie apophatique comme antidote du nihilisme, un de ses derniers textes, en tout cas un de ses derniers textes prononcés en Iran, dans un colloque organisé par Darius Shayegan, où il répondait à, il contrait les thèses de Georges Valin, qui était un philosophe de Nancy, un comparatiste, et qui était très marqué par Guénon et par le non-dualisme asiatique. Alors, je remercie Daniel Proulx parce que grâce à lui, j'ai pu avoir deux nouveaux documents qui m'ont permis de préciser un peu cette première étude. Daniel Proulx m'a communiqué, en plus, ces deux documents, c'est intéressant parce qu'ils ont 50 ans pile de distance et donc ils encadrent vraiment la carrière de Guénon. Le premier est un extrait du journal du jeune Corbin, daté de 1926, et le second est cette lettre que je citais à un doctorant de 1976. Je vais essayer de répondre à cette question de l'influence de Guénon sur Corbin en trois temps. D'abord, ce que Corbin appellera un choc salutaire, la découverte de la métaphysique universelle. Ensuite, une divergence originale justement sur le rôle de la philosophie, ça, Mathieu Tharier nous a apporté des éléments qui nous éclaireront dans la quête spirituelle. Et puis enfin, sa différence de visée, de perspective spirituelle au bout du chemin. Alors commençons d'abord par voir le jeune Corbin. Je vais peut-être déborder un petit mon sujet pour essayer de comprendre vraiment cet itinéraire de Corbin dans sa jeunesse. En avril 1926, Corbin est un étudiant en philosophie qui a été marqué par les cours d'Étienne Gilson, qui l'ont beaucoup impressionné. Il dira plus tard qu'il, quand il a essayé de ressusciter finalement la théologie orientale de Sohrawardi par l'étude des textes et puis en général de la Perse, il avait essayé de faire un peu un projet qui était né au cours d'Étienne Gilson, qui lui essayait de ressusciter la philosophie médiévale. Donc Corbin est marqué par cette approche, cette étude des textes. Et alors voilà, c'est ce jeune Corbin qui, en avril 1926, écrit dans son journal. Il vient d'avoir 23 ans. Un an, mon esprit aérait d'enchantement en enchantement, sans savoir où se rendre, quelle direction précise adopter. Depuis la découverte des appels de l'Orient, j'ai vécu dans une perpétuelle disponibilité. Les appels de l'Orient, qu'entend-il par là? Eh bien, en fait, il s'agit d'une vaste étude auquel j'ai consacré un grand chapitre dans ma thèse. C'est une livraison des Cahiers du Mois, qui était une revue à l'époque, et qui avait lancé un grand questionnaire à beaucoup de personnalités sur l'apport potentiel de l'Orient. Je vais m'y attarder, parce que ça resitue bien le contexte intellectuel dans lequel Corbin va subir, enfin en tout cas va lire Guénon. D'abord, ce volume précisément manifeste l'importance qu'a eu le débat à l'époque, après la Première Guerre mondiale, sur l'apport potentiel de l'Orient. Il y avait Romain Rolland qui s'était écrié, c'est resté célèbre, « Nous sommes un certain nombre en Europe à qui ne suffit plus la civilisation d'Europe. Nous sommes quelques-uns qui regardons vers l'Asie. » Et puis, en 1924-1925, par un long article en plusieurs livraisons, Jean Cave, qui était le pseudonyme non sans humour de Jean Grenier, a lancé ce débat dans la revue de philosophie. Il s'agissait de savoir, devant ce qui apparaissait comme une faillite, un échec de la civilisation occidentale avec la Grande Guerre, est-ce qu'il fallait se tourner vers l'Orient? Et puis, de quel Orient parlions-nous? Et puis ensuite, ou alors sinon, au contraire, est-ce qu'il fallait résister aux doctrines orientales, à cet orientalisme que les tenants de l'Action française soupçonnaient d'être un peu manigancés par l'Allemagne qui voulait dissoudre les brumes de l'intelligence, dissoudre l'intelligence latine justement dans sa forme et dans sa structure. Ensuite, ce dossier des appels de l'Orient est intéressant parce qu'il consacre la notoriété intellectuelle que Guénon a acquise dans les années 20. Ça a été un des apports de ma thèse. On avait complètement oublié que René Guénon, qui aujourd'hui est un peu relégué dans les rayons ésotériques des librairies, eh bien René Guénon avait une vraie influence, une vraie notoriété intellectuelle. En 1921, il avait publié l'introduction générale à l'étude des doctrines hindoues. Il avait posé un peu un cadre d'études qui allait lui servir après. Et ce livre a eu un grand retentissement, même s'il avait été refusé comme thèse à la Sorbonne par le doyen Bruno. Guénon avait été reconnu comme un orientaliste qui avait une vraie connaissance, même s'il n'était pas universitaire. On le voit par exemple parce que René Grousset, qui était le grand historien de l'Asie, dans son histoire justement de la pensée, dans son histoire de la philosophie orientale en 1923, parlait de ce livre comme d'un classique et y citait de larges extraits. En 1925, il y avait Marcel Jousse, que vous connaissez peut-être, qui a beaucoup étudié les civilisations de style oral. Et bien, dans un de ses premiers livres, le style oral rythmique et mnémotechnique chez les verbomoteurs, paru chez Beauchesne en 1925, même chose, il citait des très longs extraits de l'introduction générale à l'étude des doctrines hindoues. À l'époque, il y avait Paul Claudel, il y avait beaucoup d'observateurs de la vie intellectuelle qui classaient Guénon à côté de Sylvain Lévy et de René Grousset comme un des grands connaisseurs de l'Orient. Et Guénon publie en 1924 un livre qui s'appelle « Orient et Occident » et qui est vraiment une réponse en plein dans le mille à ce débat intellectuel qui se lève. C'est un peu une coïncidence, c'était dans l'air du temps. Et grâce à ce livre, grâce à cet acquis, il va occuper vraiment une place centrale dans les appels de l'Orient qui essaient de répondre à cette question brûlante. Il écrit deux articles, on cite une fois son débat avec Maritain et René Grousset, une autre fois François Berge consacre une étude à sa pensée. Enfin, il revient très régulièrement dans ce dossier. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que les Cahiers du Mois, cette revue, là, pour le coup, qui a eu d'autres épisodes, d'autres livraisons, est une de ces revues qui manifeste ces groupes qui ont incarné ce qu'on a appelé la génération 1925, c'est-à-dire ces hommes qui ont grandi en l'absence de leur père et de leur grand frère qui étaient au front pendant la Première Guerre mondiale, qui eux-mêmes avaient comme perspective de partir au front dès qu'ils seraient majeurs et donc une certaine vision un peu mortifère de leur avenir. Et lorsqu'ils sont arrivés sur la scène intellectuelle au début des années 20, eh bien, ils ont voulu rejeter le monde de leur père, qui était un monde scientiste, positiviste, et se tourner pour rechercher un sens, reconstruire. Il y avait eu Dada qui avait fait table rase, et eux voulaient reconstruire, retrouver un ordre. Alors certains se sont tournés vers le Moyen Âge, vers Saint Thomas d'Aquin avec les néo-thomistes. D'autres se sont tournés vers l'Inde. D'autres encore ont cru voir se lever la lumière en Orient, qui était la Russie avec la révolution bolchevique. Mais on sent qu'il y a quelque chose de commun dans cette recherche pour reconstruire un ordre en se fondant sur un système de pensée ou sur une métaphysique. Et je crois qu'il faut vraiment avoir à l'esprit que Corbin est vraiment tout à fait représentatif de cette génération qu'on a aussi appelée la génération de 1925, parce que précisément cette génération, que chaque génération reçoit une empreinte intellectuelle avec certaines problématiques, et bien cette génération a reçu son empreinte intellectuelle en l'année 1925, qui est l'année de la publication des appels de l'Orient. On peut citer comme un autre exemple, bon, Corbin est très représentatif, d'autant plus que Corbin est lui-même orphelin au sens de mère et puis sont délaissés par son père au sens strict, donc ça renforce encore cet aspect psychologique. On peut citer par exemple l'exemple de Raymond Queneau, qui a bien connu Corbin, qui fréquentait des séminaires communs justement à l'école pratique des hautes études, et Queneau est né en 1903 comme Corbin. Queneau a découvert Guénon dès la publication de son premier ouvrage en 1921. Et il écrit dans son journal qu'il a été profondément étonné par ce qu'il a lu. Enfin, il y a vraiment une sorte de choc intérieur. Et il notera encore que ce métaphysicien lui avait ouvert des possibilités ne paraissant pas dénombrables. Ce sera une des grandes lectures de Raymond Queneau. Enfin, je parle de ça parce que je pense que c'est un peu semblable l'impact qu'a la découverte de l'œuvre de Guénon chez ces jeunes hommes de cette génération. Alors, ce décor posé, revenons à ce qu'écrit Corbin dans son journal. Un an, d'ailleurs ça correspond, c'est en 1926, donc c'est un an après, en avril 1926, un an après la publication des Appels de l'Orient. Mon esprit a erré d'enchantement en enchantement, sans savoir où se rendre, quelle direction précise adopter. Depuis la découverte des Appels de l'Orient, j'ai vécu dans une perpétuelle disponibilité. La découverte des perspectives exposées dans ce numéro des Cahiers du Mois a suscité un choc, a ouvert quelque chose en lui. Il écrit, dans la suite de son journal, partir aux Indes, ou ne plus avoir seulement une connaissance théorique du moi supérieur et de la métaphysique avec un grand M, mais la réaliser effectivement. L'Orient qui l'attire alors est donc pas encore le monde iranien, même s'il a découvert Avicenne et le monde arabe avec les cours d'Étienne Gilson, mais c'est l'Inde pour sa métaphysique. Il sait qu'il doit, je cite, étudier le sanskrit et il a un obscur désir de se débrouiller pour aller aux Indes. À travers la lecture de son journal, on comprend qu'il est resté un peu dans le vague jusqu'au moment où un ami l'entraîne aux Amis de l'Orient, qui était une association qui était liée au musée Guimet, rencontrait le directeur du musée Guimet, qui s'appelait Joseph Akin, ou Akin, je ne sais pas comment il faut dire, et il lui fait part de façon avec abondance du cœur de toutes ces aspirations obscures qu'il a en lui de partir en Inde, d'apprendre le sanskrit, et Akin l'interrompt avec bienveillance pour lui donner un débouché pratique. Il lui dit, il faut que vous alliez à l'école française d'Extrême-Orient, voilà ce que vous devez étudier, voilà ce que vous devez faire pour y rentrer. Et alors Corbin dit se sentir envahi par une certitude joyeuse. Il dit que sa vocation lui apparaît nettement, il sait ce qu'il va faire ces deux prochaines années, et c'est cela qu'il détermine, semble-t-il, à s'inscrire à l'école des langues orientales. Alors c'est peut-être pas exclusif du fait que l'étude d'Avicenne, des textes traduits de l'arabe avec Étienne Gilson, l'ont aussi poussé, ou les cours d'Émile Breillet, où on étudiait le rapport de Plotin et des Upanishads. Mais en tout cas, là, il dit clairement dans son journal que c'est ce désir de d'intégrer et de faire sienne la métaphysique et d'étudier sanskrit qui le détermine à faire cela. Il poursuit dans son journal. Alors ce fut la joie, la joie. Ma vocation était nette. Je voyais le lien entre mes études de philosophie médiévale, avec Gilson évidemment, et la métaphysique hindoue. Et il ajoute, je savais ce que je demanderais à René Guénon. Le nom de Guénon apparaît donc au centre de cet extrait de journal, comme il va apparaître au centre du premier article qu'il a écrit en 1927, Regard vers l'Orient, et sur lequel je vais revenir. Regard vers l'Orient, d'ailleurs, ce premier article apparaît comme sa propre contribution au débat des appels de l'Orient. Il semble que, d'après cet extrait de journal, que le jeune Corbin s'apprête à rencontrer Guénon. Alors, il ne faut pas s'étonner, enfin, Guénon, jusqu'en 1930, est une personnalité à Paris. On va le rencontrer. On a, par exemple, le récit de la visite de Pierre Naville, qui était l'envoyé des surréalistes, qui devait demander la collaboration de Guénon à la révolution surréaliste. Et il raconte sa visite à Guénon, qui habitait rue Saint-Louis-en-Lille, dans l'ancien évêché de Paris. On rencontre Guénon, il connaît Aquin, justement, qui est allé voir Corbin. Il connaît Paul Masson-Roussel, Massignon, qui rencontre en 1927, certainement Gilson, qu'il trouve beaucoup plus ouvert que Jacques Maritain, à qui il écrit. Jean Grenier, alias Jean K, va le trouver pour parler de son article. François Berge aussi, le directeur, évoque ses discussions avec Guénon, qui ont déterminé d'ailleurs le questionnaire qu'il va soumettre à toutes ces personnalités. Voilà, donc Corbin a ce désir. Queneau lui-même, par exemple, dans son journal, dit qu'il a projet de faire la connaissance de Guénon, et je cite, il attend de lui tant d'explications et de lumière. Alors pourquoi Corbin veut rencontrer Guénon? Il écrit, je voyais le lien entre mes études de philosophie médiévale et la métaphysique hindoue, je savais ce que je demanderais à René Guénon. Et Corbin affirme encore dans son article de 1927 que pour lui, l'attraction des néo-thomistes pour le Moyen-Âge et l'attraction vers les doctrines de l'Inde ont la même signification, c'est le signe d'un appel métaphysique. Alors, qu'entend-il par ce terme de métaphysique? Il semble qu'il veut parler de la métaphysique un grand M, un peu la métaphysique dans son sens guénonien. D'ailleurs, il dit, il parle de l'au-delà des formes dans son article de 1927, ce qui est assez typiquement guénonien. Guénon, d'ailleurs, a fait une conférence à la Sorbonne en décembre 1925, auquel Corbin aurait très bien pu assister, et qui était précisément consacrée au thème de qu'est-ce que la métaphysique. Ça a été publié en un petit volume qui s'appelle « La métaphysique orientale ». D'ailleurs, Corbin continue dans son journal, « Toutes mes énergies convergent. Apprendre le sanskrit, partir aux Indes, ou ne plus avoir seulement une connaissance théorique du moi supérieur et de la métaphysique, mais la réaliser effectivement. Cette distinction aussi entre le moi et le soi, l'individualité et la personnalité, est celle qui ouvre le livre que Guénon publie en 1925, qui s'appelle « L'homme et son devenir selon le Vedanta ». Et dans son article de 1927, même Corbin aura des termes encore plus guénoniens, si j'ose dire, pour définir la métaphysique. Il dit « Si l'on nous parle, à nous occidentaux, de nous affranchir de la vie, nous croyons qu'il s'agit d'un suicide, tant nous nous cramponnons à la chimère de l'individualité que nous confondons avec la personnalité. » Donc le jeune Corbin, qui ne regrette pas encore, comme il le fera à la fin de sa carrière, le dogmatisme et l'intellectualisme de Guénon, écrit en 1927 « L'œuvre de Guénon est une excellente introduction au point de vue de métaphysique pure, du domaine de l'informel. » C'est aussi encore un terme guénonien. Et nous nous trouvons d'accord avec les suggestions si riches qui y sont éparses. Si nous protestions plus haut dans son article contre toute tyrannie d'un ordre spirituel a priori, c'est parce que nous avions conscience que tous ceux qui nous sont proposés sont entachés de relativité et de contingence. Il n'en serait plus de même si nous arrivions à travers leur expression variable à la connaissance des principes eux-mêmes. On peut donc penser que cette ouverture à l'idée d'une métaphysique universelle, conçue comme une connaissance d'un ordre intelligible qui est plus réel que notre réalité et non pas une construction humaine, philosophique, a été fondamentale pour Corbin. Dans sa lettre de 1976 que je citais en ouverture à ce doctorant canadien, Corbin affirme « J'estime beaucoup l'œuvre de René Guénon. Je crois qu'il a rendu service en ouvrant enfin une voie qui ne fut ni celle de l'historicisme, ni celle du sociologisme. Et encore, veuillez relire le prologue du tome 1 de mon opus en islam iranien. Je ne me rallie moi-même ni à l'historicisme, ni au sociologisme, ni au psychologisme. Je poursuis également une recherche métaphysique, ce qui n'est pas du tout à la mode de nos jours. C'est pourquoi il arrive que ma pensée recroise celle de René Guénon. Je suis d'accord avec ce qu'il a voulu restaurer. Corbin, à la différence d'un Jung, affirmera toujours en effet la réalité de la métaphysique, du monde des intelligibles. Bien que, comme nous le verrons, il ait été plus attentif, bon, c'est évident, vous le savez tous, au monde imaginal qu'à l'intelligible pur. En 1963, dans la réponse qu'il faisait dans la revue de métaphysique et de morale à Mohamed Askari, ce guénonien pakistanais qui avait attaqué son interprétation d'Ibn Arabi, Corbin déclarait que l'œuvre de Guénon pouvait, à un moment de la vie, provoquer un choc salutaire. Et on peut se demander si ce n'est pas en se souvenir de ces années 1925-1926 qu'il écrivait cette phrase. Ce choc, en tout cas, je ne sais pas s'il faut le qualifier de salutaire, mais en tout cas, ce choc, c'était une sorte d'éveil a touché beaucoup de gens de la génération de Corbin. J'ai beaucoup d'exemples. J'ai cité Queneau, mais je pourrais aussi citer Jacques Mazuy, qui était né en 1907, avec lequel Corbin a participé à peu près à tous les avatars de l'excellente revue Hermès. Et Mazuy témoignait qu'après des études chez les Jésuites, deux années de philosophie néo-scolastique, l'œuvre de Guénon avait exercé une influence décisive sur sa pensée et sur sa vie, en, je cite, « lui révélant des univers intérieurs et des modes d'existence qui lui paraissaient complètement périmés ou dépassés après le triomphe de la science et de la connaissance objective ». Voilà pour ma première partie. Mais dans un deuxième temps, il faut voir que dès le départ, il y a une divergence qui se dessine, notamment liée au rôle de la philosophie dans la quête spirituelle. Et donc là, je vais converger un peu avec des propos de mon prédécesseur. Corbin, dans son article de 1927, affirmait que les non-spécialistes intéressés par la question de l'apport potentiel de l'Orient contracteraient à lire Guénon une grosse dette intellectuelle. Cependant, pour lui, l'adhésion à la métaphysique universelle n'impliquait pas du tout le rejet de la philosophie occidentale comme le faisait Guénon, pour lequel c'était une pensée, une sorte de construction humaine individuelle qui n'avait aucun intérêt. Corbin disait explicitement ne pouvoir partager avec René Guénon, je cite, sa critique acerbe de toute philosophie occidentale. Dès cette époque, la philosophie et la vie spirituelle vont de pair pour lui. Il écrit dans cet article de 1927 « La vie spirituelle n'est pas un système de notions ou d'actes rituels parfaitement et définitivement organisés. Nous la concevons comme un effort continu, jamais achevé. La véritable grandeur est dans la lutte pathétique de l'âme seule à seule devant l'infini, portant en elle un désir immense, refaisant en elle-même sa propre synthèse. Elle doit incorporer successivement tous les points de vue humains, surmonter ces contradictions qui n'existent que d'un certain point de vue. Et pour ce faire, Corbin considérait que l'enseignement de philosophie à la Sorbonne, que ses ennemis qualifiaient d'anarchie intellectuelle, était précisément la meilleure école parce que on était en contact avec beaucoup de points de vue et ça permettait d'apprendre à les synthétiser. Corbin s'éloignait encore plus de la perspective de Guénon parce que non seulement il disait son intérêt pour la philosophie, mais en plus il se référait à la philosophie allemande. Guénon, dans son premier livre, l'introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, avait consacré un chapitre qui a été d'ailleurs supprimé dans les éditions suivantes à la critique de l'esprit allemand. Pour lui, c'était vraiment l'esprit le moins ouvert et le moins capable de comprendre les doctrines orientales. Pour Corbin, c'était le contraire. Dans son article de 1927, il affirmait que c'était la nation de l'homme faustique qui paraissait le mieux répondre aux exigences intellectuelles de son temps. Il évoquait plus loin la perspective synthétique de Goethe et affirmait que Spinoza et Schelling avaient marqué l'aube d'une philosophie véritablement universaliste et auquel beaucoup de ceux qui avaient comme lui échappé au dogmatisme néo-thomiste devaient un lourd tribut. Alors, arrivé à ce point, il faut mobiliser un test singulier que m'a fait aussi connaître Daniel Pou, que je remercie encore, pour mieux comprendre l'évolution du jeune Corbin. En fait, il s'agit d'un texte manuscrit qui n'a pas été édité à ma connaissance, qui apparaît comme une fiction. Il met en scène un personnage qui s'appelle Maxence, Mais j'ai des raisons de croire que c'est un récit autobiographique qui nous parle d'un moment clé, charnière de son évolution. Je pense que c'est un récit autobiographique, en tout cas je vais en faire l'hypothèse dans ce papier, évidemment on pourra en discuter, pour trois raisons. D'abord, il est écrit le 4 avril 1927. C'est donc un an après l'extrait du journal que nous avons commenté. Or, dans ce texte, il dit « L'édifice de sa foi s'est effrité depuis une année entière ». Donc, première correspondance. En outre, le 4 avril de l'année 1927, j'ai vérifié, se situe 2 semaines avant Pâques. Or, ce récit raconte une discussion avec un prêtre, durant laquelle un jeune homme nommé Maxence confie la transformation de sa foi, sa nouvelle profession de foi, et demande à ce prêtre s'il pourra communier le jour de Pâques. Et enfin, troisièmement, ce texte au statut incertain se termine par une note « Souvenir du dimanche 3 avril 1927 », donc de la veille. Donc, il me semble, enfin, c'est très probable, en tout cas, ça peut être contestable, mais je refais l'hypothèse ici que c'est un récit largement autobiographique. Ce récit laisse penser que la découverte de la métaphysique universelle et des doctrines de l'Orient ont bouleversé la foi du jeune Corbin. Alors lui, il avait été un catholique très fervent puisqu'il avait voulu, il a eu le désir de rentrer au monastère de Clairvaux au Luxembourg quand il avait 16 ans. Il est ensuite rentré brièvement au séminaire d'Issy-les-Moulineaux à 18 ans. Et là, il écrit « Durant une année entière, il avait senti s'effriter lentement l'édifice de sa foi, se désagréger le système de notions et d'espoir qui avait alimenté sa petite enfance et sa première jeunesse. Du jour où un enseignement merveilleux de largeur libérale avait agrandi ses horizons, lui permettant de communier avec la pensée de tous les sages, il ne s'était rien dissimulé. Aucune formule, aucun système dogmatique ne pouvait plus contenir sa foi transformée. Il nous semble que cet enseignement lui permettant de communier avec la pensée de tous les sages, dans ce contexte, renvoie, peut-être pas uniquement, mais en tout cas en particulier, à l'œuvre de René Guénon. Guénon, à l'époque, affirmait l'existence de cette tradition universelle, de cette métaphysique universelle, mais néanmoins, il affirmait que l'Église catholique était la forme traditionnelle pour l'Occident et que les Occidentaux devaient s'appuyer sur l'Église pour redresser le monde occidental. Et d'ailleurs, Guénon, à l'époque, collaborait lui-même à la revue Regnabit, qui voulait remettre le Sacré-Cœur au centre de l'intelligence occidentale, donc une revue catholique, comme vous l'imaginez. Or, Corbin explique dans ce récit que durant un an, il a espéré conserver un lien avec le passé. Dans sa largeur de conception, il attribuait une valeur à tous les rites et il se disait qu'élevé dans le catholicisme, le mieux qu'il avait à faire était de participer toujours à sa liturgie. Il a conservé cette attitude jusqu'au moment où il va rencontrer un prêtre en qui il a confiance. Je me demande si c'est pas un prêtre qu'il a connu au séminaire d'Issy-les-Moulineaux, parce que d'après certains indices, je ne rentre pas dans le détail pour pas être trop long, mais je pense que cette scène se passe à Saint-Sulpice, qui était devenu par les Sulpiciens. Alors, Maxence, alias, je pense, Henri Corbin, va confier à ce prêtre la transformation de sa foi. Il lui explique qu'il n'adhère plus à la conception chrétienne de l'homme et de Dieu, au divorce entre nature et surnature, à la conception d'individualité s'accrochant à la permanence de l'individu. Il ne croit plus que Dieu est juge, non plus que Dieu est père. Il se demande encore s'il a besoin du dogme du péché originel et de l'image du crucifié. Et le prêtre lui répond, Corbin précise dans son récit, affectueusement mais sans ménagement, « Vous n'avez plus la foi, vous ne pouvez plus participer à nos sacrements. » Alors Maxence, ou Henri Corbin, est indigné, à mon avis, lui tend une perche en lui disant « Mais de quelle foi parlez-vous? Comment vivifiez-vous cette foi, sinon par l'interprétation de votre cœur en résolvant les contradictions qu'elle suscite? Moi, je ne sais pas ce que signifient en soi les notions de divinité du Christ et de présence réelle, mais il y a un mystère très saint dont je m'approche comme un initié des mystères de Delphes et d'Éleusis. » Et le prêtre lui répond que non, théologiquement, ça ne suffit pas et il ne pourra pas communier à Pâques. Alors, on se dit qu'il y a peut-être un prêtre qui a raté quelque chose là parce qu'il manquait un peu de tact et peut-être d'intelligence spirituelle. Alors, Maxence, Henri Corbin, ressent une ironie de dédain. On sent qu'il est absolument indigné par la fermeté du prêtre et blessé. Et puis que cela le conforte finalement dans l'idée qu'il avait de ce rejet de l'exclusivisme religieux, comme il le dit, du joug pesant depuis des siècles sur les consciences. Et le prêtre le raccompagne à la porte, gentiment, ils discutent de choses et d'autres. Et Maxence aperçoit, c'est pour ça que je pense que c'est à Saint-Sulpice, le banc où Renan venait se recueillir. Et il dit au prêtre, le catholicisme est une barre de fer, on ne discute pas avec une barre de fer. Et il quitte l'église et il quitte le catholicisme, mais pas seulement, en fait, il quitte, en tout cas, dans ce qu'il dit, et j'ai une confirmation, pas seulement dans ce récit qui pourrait être un récit de fiction, mais dans un autre texte de la même période, inédit aussi, on sent qu'il quitte le christianisme. Enfin, il y a vraiment il rompt, on sent qu'il a besoin de faire cette rupture. Et d'ailleurs, il ressent une sorte de, il est à la fois troublé et à la fois il ressent une sorte de joie. Il dit une indicible joie intérieure dans la culture paisible de son intelligence, étincelle de la présence divine. Il ressent un mouvement d'amour qui le porte vers les êtres et l'être avec un grand E, loin de toute inquiétude dogmatique. Il faut bien resituer aussi ce rejet, je pense, du catholicisme dans le cadre de cette église qui n'avait pas... Monsieur Le Bolloïc parlait de Fénelon et de la rupture avec Bossuet. C'est vrai que la notion de mystique était quand même bannie et là, il ne faisait que se lever. En fait, commencer d'ailleurs à cette époque, enfin, avait commencé depuis le début du siècle, mais tout le débat sur la mystique, où finalement la mystique allait être réhabilitée dans l'église catholique et même démocratisée, si j'ose dire. Et l'un des protagonistes de cette querelle de la mystique dans l'Église catholique est, même s'il n'était pas lui-même catholique, est Jean Baruzy. Et précisément, la même année de 1927, Corbin va suivre les cours de Jean Baruzy au Collège de France sur le jeune Luther et les mystiques allemands. Un cours qui a été très important pour lui parce qu'il se prolongeait dans l'appartement Place Victor Hugo, d'après ce que j'ai compris, de Jean Baruzy. Et en fait, à ce cours, participer, dit Corbin dans son post-scriptum, là, ses entretiens avec M. Nemo, des étudiants, des jeunes étudiants de la théologie, de la faculté de théologie protestante. Baruzy lui fait découvrir aussi, il dit, il me montra le chemin de l'Allemagne des philosophes et des grandes individualités de la spiritualité mystique. On peut imaginer que la découverte du jeune Luther, des théosophes allemands, l'a engagé, et puis ses amitiés avec des jeunes protestants, l'a engagé à devenir protestant, parce que c'est vrai que ce passage au protestantisme, enfin, à ma connaissance, hein, je suis pas un grand spécialiste de Corbin, mais j'ai pas trouvé de récit clair de ce qu'il a mené au protestantisme. Et d'ailleurs, Corbin s'y sentira pas forcément plus à l'aise, enfin en tout cas au départ, il y a une note d'avant 1930 où il dit « J'en ai absolument marre de passer ma vie à m'excuser ou à me disculper d'être un intellectuel. Si j'étais revenu dans le catholicisme après l'avoir quitté, jamais je n'aurais connu une telle situation. Je ne suis pas venu au protestantisme pour étouffer. » Donc on sent qu'il a du mal avec toutes les orthodoxies. Et c'est ce lien que j'ai souligné avant cette petite digression entre les rapports entre la mystique et la philosophie qui va pousser Corbin à s'intéresser. Il découvre visiblement ce Rawardi dans une notice allemande très sommaire. Il en parle à Massignon. Et Massignon, donc, va lui rapporter cette édition de, alors pardonnez ma prononciation des termes arabes ou persans, je suis pas du tout arabisant, de Hikmat al-Ishraq de ce Rawardi qui traduira par la théosophie orientale. 10 ans après, en 1939, Corbin fait paraître une étude sur ce théosophe persan qui conjoint philosophie et mystique, en tout cas et vie spirituelle. Et là, il faut s'arrêter sur la critique qu'en fit Guénon après-guerre pour pouvoir situer un peu la perspective des deux hommes. Donc Guénon a publié une recension de cette étude de Corbin parue en 1939, mais Guénon l'a publiée en 1947 dans les études traditionnelles. Et pour la petite histoire, je pense que Corbin a pâti de l'animosité que Guénon avait par rapport à Massignon, qui dans les années 30 avait participé à une campagne qui voulait latiniser l'écriture arabe, parce qu'il y avait profondément déplu à Guénon, puis en plus Massignon visiblement faisait courir un certain nombre ou colporter un certain nombre de racontars sur Guénon au Caire. Enfin bon, il y avait une tension entre les hommes qui s'étaient connus à Paris, et Guénon voyait bien que Corbin était l'élève de Massignon, et c'est vrai que Guénon a beaucoup plus ménagé Mircea Eliade, qui était aussi assez marqué par la pensée de Guénon, en tout cas au départ, alors qu'avec Corbin il va être assez dur. Et dans cette recension, il lui reproche, je cite, de ne pas avoir su faire la distinction entre la doctrine Ishrakiya et le véritable Tassavouf. Sans doute, ce Rawardi a dû être influencé dans une certaine mesure par le Tassavouf, mais au fond, il semble bien s'être inspiré d'idées néoplatoniciennes qu'il a revêtues d'une forme islamique. Et c'est pourquoi sa doctrine est généralement regardée comme ne relevant véritablement que de la philosophie. Et il terminait avec « Mais les orientalistes ont-ils jamais pu comprendre la différence profonde qui sépare le Tassavouf de toute philosophie ?» Le genre de réflexion qu'il avait complètement brouillé avec tous les orientalistes de son temps. Selon Corbin, pourtant, la doctrine Ishraqi n'était pas une simple philosophie. Elle conjoignait méthode soufie et exigence de la connaissance pure. Elle était à la philosophie ce que le soufisme était au kalam, dont a parlé Mathieu Terrier, c'est-à-dire la scolastique dialectique de l'islam. Cette doctrine témoignait donc de l'aptitude de l'âme iranienne à conjoindre la recherche philosophique et l'expérience mystique. Corbin a écrit « Un des traits essentiels de la théosophie sorawardienne de la lumière est de rendre indissociable philosophie et expérience mystique. Une philosophie qui n'aboutit pas à une métaphysique d'extase est une spéculation vaine. Une expérience mystique qui ne s'appuie pas sur une formation philosophique solide est menacée de s'égarer et de dégénérer. » C'était d'ailleurs aux yeux de Corbin une caractéristique de ce qu'il appelait la théosophie en général, comprenant aussi les théosophes allemands comme Jacob Böhm par exemple. Il écrivait « L'expression arabe « hikmat illahiya », pardon pour la prononciation, est l'équivalent exact du grec « théosophia ». Elle désigne cette sagesse divine qui n'a point seulement pour objet l'être en tant qu'être, mais les univers spirituels dont la gnose ouvre l'accès. Son organe, ce ne sont ni les facultés de perception sensible, ni l'intellect ratiocinant, mais une tierce activité de l'âme qui est intuition intime, perception visionnaire intérieure. Nous ne saurions donc ni nous passer de ce mot de théosophie, ni isoler de la philosophie ce qu'il désigne, alors que Sohrawardi requiert chez son disciple la plus sérieuse des formations philosophiques, avant de tenter d'aller théosophiquement plus avant. Il faut ajouter à cette critique de Guénon que Guénon soulignait encore que Sohrawardi ne se rattachait à aucune silsila régulière, donc aucune chaîne de transmission initiatique humaine. Corbin considérait pour sa part que les modalités du rattachement initiatique en milieu chiite étaient différentes de celles présentées par Guénon à partir de 1932. Le chiisme était pour Corbin la gnose originelle de l'islam dont le soufisme s'était séparé en reportant sur le prophète les attributs de l'imam. La société chiite était par elle-même un milieu virtuellement initiatique, car les fidèles pouvaient se rattacher directement à l'imam de par leur dévotion. Ils n'avaient pas besoin d'un rattachement à une silsila, à une lignée humaine. Et il est intéressant de noter que Guénon admit cette possibilité de rattachement initiatique en dehors d'une lignée humaine à titre exceptionnel. Or, il l'illustrait précisément par le cas de Jacob Böhm, un théosophe protestant si cher à Corbin. Guénon notait cependant que l'inconvénient d'un tel rattachement était que l'initié, n'ayant pas vraiment conscience de la nature de ce qu'il recevait, risquait de passer pour un mystique. Remarque qui rappelait par ailleurs la définition qu'il avait donnée en 1921 de la théosophie, je cite, « un ensemble de doctrines assez diverses qui ont pour traits communs et fondamentaux d'être des conceptions plus ou moins strictement ésotériques, d'inspiration religieuse ou même mystique, bien que d'un mysticisme un peu spécial sans doute ». Et il est aussi intéressant de rajouter que ailleurs, Guénon notait que la principale différence entre les écoles du soufisme arabe et des écoles persanes était que l'ésotérisme dans ces dernières revêtait une forme plus mystique, tandis que les premières demeuraient plus purement intellectuelles et métaphysiques. Donc on voit ainsi que l'inclination de Corbin pour la philosophie et le rôle de la philosophie dans la spiritualité l'a conduit vers la théosophie iranienne, qui est un domaine qui correspond profondément, enfin, en tout cas, c'est vrai qu'on le connaît par Corbin, alors c'est peut-être aussi problématique, mais en tout cas, semble correspondre profondément à son tempérament spirituel, mais finalement qui colle assez mal aux catégories forgées par Guénon pour faire une sorte d'économie générale des traditions. Ce qui m'amène à ma troisième partie pour souligner leur différence de méthode et de visée spirituelle. Cet attachement de Corbin à une perspective théosophique n'est donc pas sans lien avec la différence de méthode qu'il exposa plus tard et aussi la place qu'il accordait à l'individualité ainsi qu'à l'émotion dans la vie spirituelle. Guénon, lui, considérait ces caractéristiques comme ressortissant de la vie mystique qu'il distinguait d'une perspective purement initiatique, laquelle visait non tant à l'union à Dieu qu'à une identification avec le principe. Alors, pour éclairer la différence entre Corbin et Guénon, leur différence de méthode et de perspective, on peut s'appuyer sur la réponse que Corbin fit, donc je l'évoquais en ouverture, à un guénoniste pakistanais qui s'appelait Mohamed Askari en 1963 dans la revue de Métaphysique et de Morale. Corbin réagissait en qualité d'herméneute aux attaques de ce zélateur de Guénon qui illustrait bien l'adage souvent repris par Guénon lui-même qu'il n'y a pas de pire calamité que d'avoir des disciples. L'herméneute et le phénoménologue, selon Corbin, devaient dévoiler la vérité ésotérique cachée au cœur des phénomènes. Il lui fallait ainsi rencontrer les phénomènes là où ils avaient lieu et où ils avaient lieu. Et il s'agissait donc d'étudier les textes des grands spirituels qui relataient leurs expériences en tentant de laisser se montrer ce qui s'était montré à eux. Car contrairement à l'affirmation de Mohamed Askari, selon Corbin, les écrits d'Ibn Arabi, parce que Askari attaquait surtout l'interprétation que Corbin faisait d'Ibn Arabi, n'étaient pas essentiellement impersonnels et non individuels. Les révélations reçues à la Mecque étaient d'abord fondées sur les expériences visionnaires d'Ibn Arabi, sur ses intuitions et ses songes les plus personnels. Corbin contestait ainsi cette idée d'une connaissance métaphysique par l'intellect pur qui ne serait ni mentale ni humaine. Tous les spirituels de l'islam avaient répété que l'eau prenait forcément la coloration du vase qui la contenait. Dès lors, il s'agissait de s'interroger sur la couleur du vase. Mohamed Askari, ne tenant pas compte de cela, niait que la connaissance d'Ibn Arabi ait pu procéder de cette faculté médiane que Corbin nommait imagination créatrice. Selon Askari, elle procédait seulement de ce que l'on nommait en Orient « akl » et que Guénon, pour en faciliter la compréhension aux Occidentaux, avait appelé « intuition intellectuelle ». Mais selon Corbin, cette traduction faussait la compréhension. Elle était en effet réductrice au regard des sens multiples que portait ce terme arabe. Et plus généralement, Corbin affirmait que les spirituels de l'islam étaient loin de limiter la source de leur connaissance supérieure au seul « akl » envisagé comme « intellect ». Pur. Beaucoup de termes techniques indiquaient tout autre chose et nécessitaient la mise en relation du akl avec le kalb, le cœur. Or, de façon significative, au cours de son étude, Askari n'avait pas une seule fois fait référence à ce terme ni à celui de Ma'arifa Kalbiliya. Corbin n'acceptait pas non plus l'autorité que Askari attribuait à Guénon. Lui qui avait consacré sa vie, disait-il, à étudier les doctrines de l'ésotérisme islamique, ne pouvait admettre que le dernier mot ait été dit dans l'œuvre de René Guénon, que l'interprétation vraie et définitive fut la sienne. Dans sa lettre de 1976 au doctorant canadien que j'évoquais, Corbin affirme « Guénon est tout à fait à l'aise lorsqu'il traite des questions concernant la tradition et le symbolisme en Occident. Il l'est beaucoup moins quand il s'agit des choses de l'Orient. Avez-vous fait le compte exact des textes arabes qu'il a connus de première main ?» Bon, ça, j'avoue, c'est une question auquel son interlocuteur ne pouvait pas répondre parce que Guénon avait en effet eu accès à des textes arabes puisqu'il était même parti en Égypte pour faire une collection et traduire des textes rares du soufisme. Enfin, je poursuis. Le chiisme, l'alchimie, tout le domaine de langue persane sont restés en dehors de son champ de vision. Et encore dans cette même lettre au doctorant canadien, ce qui me gêne surtout, c'est qu'il ne donne jamais une référence. Il faut le croire sur parole. Je m'efforce au contraire d'indiquer toutes mes sources et les chemins de traverse afin que d'autres puissent refaire le chemin après moi. La méthode de Guénon n'avait en effet rien de comparable avec l'approche phénoménologique de Corbin. Sans forcer l'opposition, on peut dire que quand Guénon faisait référence à un texte, c'était finalement plus pour exposer sa doctrine impersonnelle d'origine divine, pour reprendre les termes du docteur Grangier, que pour y chercher une révélation. Guénon parlait d'autorité. Et d'ailleurs, c'est en ce sens que Ananda Kumaraswamy, auquel le jeune Guénon se réfère aussi, avait présenté Guénon dans ISIS, une revue internationale d'histoire des sciences et des civilisations, comme un gourou, au sens tout à fait positif de l'Inde. Corbin, dans sa lettre au jeune doctorant de 1976, écrivait pour sa part « Ceux que je reconnais comme maîtres, ce sont en vérité nos orafa eux-mêmes, Sohrawardi, Ibn Arabi, Haïdar Hamoli, Sadra Shirazi et tant d'autres. Je ne retrouve pas en eux la méthode, le plan d'approche des questions suivies par René Guénon. » Et en 1960, dans « Terre céleste et corps de résurrection », Corbin avait précisé qu'il utilisait l'adjectif « traditionnel », je cite « sans insinuation de quelques magistères secrets et imprécis » dont il arrive aux Occidentaux de s'investir d'autorité quand il traite de ces choses. Et l'année de la controverse avec Mohamed Askari, Gabriel Germain, un helléniste de l'Université de Rennes qui s'intéressait beaucoup à l'œuvre de Corbin, opposait au magistère de Guénon la démarche de Corbin selon lequel, je cite, « il n'y avait pas de syncrétisme à construire, mais des isomorphismes à constater ». oui, des formes semblables, parce qu'elles enveloppent une expérience foncièrement une. Cette question du magistère renvoyait aussi à la notion d'orthodoxie que nous avons évoquée tout à l'heure. L'emploi qu'en faisait Mohamed Askari était pour Corbin ambigu. Guénon avait insisté sur la complémentarité entre ésotérisme et exotérisme dans les formes traditionnelles et sur le respect des prescriptions de l'exotérisme comme préalable à une démarche initiatique. Selon Corbin, Askari défendait en conséquence, je cite, « une orthodoxie si stricte qu'Ibn Arabi n'avait jamais pu écrire une ligne en désaccord avec le Coran et le Hadith ». Pour Corbin, les choses étaient plus subtiles. L'approfondissement du problème fondamental de l'exégèse spirituelle, Tawil, et des rapports entre le Zahir, le sens apparent, et le Batin, le sens intérieur, pouvait seul permettre de comprendre qu'une certaine orthodoxie supérieure se heurtait parfois à une incompréhension de l'orthodoxie commune de l'islam. Il y avait sous-jacente à cette remarque une ligne de fracture entre les deux auteurs. On en rappelait plus haut que Corbin avait cru pouvoir trouver dans le chiisme l'ésotérisme originel, dont le rapport vécu avec la charia n'était, je cite, pas exactement le même que dans le sunnisme. Corbin tendait à y voir une vérité ésotérique qui domine la loi et émancipe la religion littérale. Et il allait lui-même jusqu'à s'appuyer sur cet ésotérisme pour condamner toute orthodoxie, toute religion, tout dogme. Selon Michel Chodkiewicz, donc le grand spécialiste d'Ibn Arabi, je cite, soucieux de débusquer un chiite clandestin dans les écrits d'Ibn Arabi, qui était pourtant un sunnite déclaré, Corbin l'avait présenté comme celui qui brise les rigidités de la lettre pour atteindre, par une libre interprétation ésotérique, un tawil, des sens nouveaux de la révélation. Luc Benoît commentait dans les études traditionnelles. Luc Benoît, c'était un intellectuel d'un certain niveau qui s'était rapproché de Guénon. Il avait été conservateur du château de Versailles et puis du musée des Beaux-Arts de Nantes. Et il soulignait en 1959, en commentant les écrits de Corbin, cette différence essentielle avec les positions de Guénon. Alors, selon Guénon, tout ésotérisme réclamait son complémentaire obligé, l'exotérisme par lequel il prenait contact avec le monde manifesté. Il n'y avait pas d'ésotérisme sans corollaire extérieur, pas de souffle sans support, pas de sens sans expression. C'est pourquoi l'angélisme séduisant que l'on trouvait dans l'histoire de la philosophie islamique de Corbin ne pouvait conduire qu'à une réalisation très aléatoire de la vérité. Il se faisait l'écho, en fait, de la perspective guénonienne. Corbin, lui, au contraire, discernait dans le guénonisme un dogmatisme unilatéral et mortel, dans lequel refusait de s'enliser, je cite, « le vrai guénonien ». Le vrai guénonien, c'est ce qu'il disait à Mohamed Hassan Askari en 1963 dans la revue de Métaphysique et de Morale. Alors, on pourrait penser que cette expression laissait entendre qu'il distinguait l'œuvre de Guénon de ce guénonisme un peu caricatural de Mohamed Askari. Néanmoins, cette dernière inflexion ne laissait pas pour autant l'œuvre de Guénon hors de cause. Il soupçonnait en effet celui-ci d'avoir intellectualisé la quête spirituelle. Et à ce doctorant canadien, Corbin écrivait en 1976 « Je ne suis certainement pas le premier par qui vous entendrez regretter son dogmatisme, son intellectualisme. Il semble méconnaître systématiquement toutes les valeurs affectives. » Il n'y avait pas seulement une différence de méthode entre Corbin et Guénon, il y avait vraiment une différence de visée, de perspective spirituelle. D'autant que pour Corbin, l'attitude qui consistait à dénoncer et à dévaloriser tout ce qui ressortait, à l'individualité personnelle, à fuir dans l'impersonnel, à se réfugier derrière l'esprit d'orthodoxie, s'accordait étrangement avec la mode intellectuelle qu'il constatait dans les années 60. Aussi, quand Corbin souhaita créer cette élite intellectuelle qui devait réagir au nihilisme qui sévissait dans le monde occidental, il se distingua de la perspective guénonienne, au moins de la perspective du non-dualisme asiatique, comme il disait. Et il chercha à s'appuyer, on le sait bien, appuyer cette élite sur une spiritualité commune aux trois religions du livre, sur une gnose commune aux trois religions du livre. Il y insista de façon significative en 1977, dans sa dernière intervention à un colloque en Iran, en prenant parti, donc, comme je vous le disais, contre la perspective de son ami Georges Valin, qui était professeur à l'université de Nancy et qui avait découvert le non-dualisme, justement, en lisant Guénon en 1949-1950. Georges Valin avait cru trouver le caractère principal de la pensée occidentale dans l'identification qu'elle opérait entre l'individualité, les formes individuelles et le réel. Or, le principe d'individuation était selon lui une mutilation, une négation de l'être véritable, du soi impersonnel, qui était la seule réalité. Il voyait dans cette tendance intellectuelle l'origine du nihilisme contemporain contre lequel Corbin s'élevait. Selon Corbin, au contraire, Valin commettait une erreur mortelle. La mutilation ne résidait pas dans le principe d'individuation lui-même, mais dans le caractère déchu de cette individualité personnelle après la chute originelle décrite par les différentes gnoses des religions du livre et qu'on a évoquées plus tôt. Il s'agissait ainsi de restaurer celle-ci dans sa plénitude originelle et non de l'anéantir dans un absolu indéterminé. Affirmer que le principe d'individuation constituait une mutilation de l'être, c'était commettre une confusion dramatique entre l'unité transcendantale de l'être et une illusoire et contradictoire unité de l'étant. Comprendre cette distinction fondamentale, c'était aussi comprendre que les formes individuelles, loin de mutiler l'être, en permettaient la pleine révélation. Ainsi, Corbin entendait se rattacher à cette famille spirituelle de ceux pour qui le but suprême de la quête n'est pas l'être entièrement indéterminé de l'Asie, mais au contraire l'être entièrement déterminé. Seule cette perspective métaphysique était pour lui le rempart contre les forces négatives et néantissantes de notre temps. Pour conclure, je dirais qu'on aurait, j'aurais pu aussi chercher d'autres points d'influence possibles, comme nous le suggère par exemple un autre extrait de cette lettre de 1976 qui est très riche, et où Corbin écrit « Guénon est tout à fait à l'aise lorsqu'il traite des questions concernant la tradition et le symbolisme en Occident ». J'ai pas du tout évoqué cette question, mais c'est vrai qu'en Daniel Proulx, que je remercie encore, m'a transmis aussi des photocopies des agendas de Corbin, et en les dépouillant, j'ai trouvé en 1926 un certain nombre de titres de Guénon qui étaient notés et qui concernaient justement le roi du monde, l'ésotérisme de Dante, qui concerne ce symbolisme occidental. D'ailleurs, le roi du monde est paru en 1927, mais enfin bon, il y aurait un truc à éclaircir là, j'ai quelques idées, mais je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Donc on aurait pu essayer de voir si il y avait une influence des ouvrages de Guénon sur par exemple son approche des fidèles d'amour, des gardiens de la Terre Sainte, ou aussi du thème du grand thème du Graal. Mais évidemment, je n'ai pas le temps, ça sera peut-être pour une autre fois. Alors, plutôt que de m'engager dans cette voie, je vais terminer en citant encore une fois cette lettre avec laquelle j'ouvrais cette communication et que Corbin envoyait en 1976 à ce doctorant canadien du nom de Richard Pickrell. Il écrivait « Je ne puis dire que j'ai subi l'influence de René Guénon. Notre manière de mener respectivement nos enquêtes est différente, bien qu'il puisse y avoir quelques ressemblances. Je suis d'accord avec ce qu'il a voulu restaurer. Son œuvre m'apparaît comme un exemple à imiter et à suivre, non pas comme un dogme à recevoir servilement. À cette condition, il sera toujours fructueux de le lire. Merci beaucoup.
Merci, cher Xavier, pour cet exposé tout en nuance et qui a certainement beaucoup intéressé l'auditoire et puis tous ceux qui s'intéressent à ces deux personnes, depuis des dizaines d'années que je m'occupe d'une spiritualité musulmane. Souvent, on compare les deux, on met en rapport les deux. Donc, ça, c'est un éclairage qui sera tout à fait utile.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu autour de Nasr, par exemple, qui était à la fois proche de Chion et de Corbin. Voilà. Osman Yahya aussi, je crois que
j'étais
en contact avec son fils là.
Ah oui.
Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de personnes qui étaient un peu entre les deux.
Est-ce que vous pouvez parler du protestantisme? Il a pratiqué le protestantisme toute sa vie?
Alors, je ne sais pas si je suis le mieux placé, mais ce que je peux te dire, c'est que... Donc, il y a un peu ce mystère que j'ai essayé d'éclaircir là, sur qu'est-ce qui l'a amené au protestantisme. Je pensais vraiment dans le sillage, dans les cours de Jean Baruzy. Enfin, j'imagine, c'est une hypothèse que je fais, et sera peut-être démontée par d'autres documents qu'on aura. En tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a vraiment décroché du christianisme pour revenir au protestantisme. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert, me semble-t-il, dans ce travail. Après, il a été, en effet, il a été notamment très marqué, enfin engagé vers un centre d'étudiants marqué par Karl Barth, notamment son commentaire à l'Épître aux Romains, je crois. Et puis ensuite, je crois qu'il a été assez déçu par le développement, la grosse somme dogmatique de Karl Barth. Et puis il avait des contacts avec lui et quand il est passé à Paris. Il voit qu'il n'était pas du tout ouvert à une théologie des autres religions, qu'il les réduisait à des sagesses naturelles, etc. Donc, et puis il y avait aussi cette grosse forme dogmatique. Donc, je pense qu'il s'en est détourné. Et je pense que me semble-t-il, mais il y aura certainement des personnes mieux placées que moi pour en parler ici. Fondamentalement, il se raccrochait à une sorte de christianisme un peu originel, gnostique, un peu hors église, même si peut-être qu'il a pratiqué. Mais ça, je pense que peut-être Christian Jambé serait peut-être mieux placé que moi pour en parler.
Non, mais ça, c'est... Il n'a jamais cessé d'être chrétien. Je veux dire, ça, c'est un point de son propre témoignage. Le passage au ne pense pas seul au protestantisme, mais l'affaire compliquée. La grande figure protestante pour lui, vous l'avez, comme vous l'avez dit, le cours de Barusie a joué un grand rôle, c'est Luther. C'est d'ailleurs Luther dont il a toujours gardé sur son bureau la face, tout en étant, c'est ça qui est le plus étonnant, disciple de Karl Barth, qui est calviniste. Mais le tournant, là, est aussi un tournant familial. Il entre dans une famille d'universitaires, très grande universitaire, Maurice Lenhardt, en épousant Stella Lenhardt. Maurice Lenhardt est pasteur, lui-même retrouve d'une certaine manière la possibilité de l'Église, même si ça n'est plus l'Église catholique. Quant à la fin, enfin, il est... Oui, d'abord, il a été inhumé en rite protestant, et bon, sa foi intime était orientée, tout le montre, en direction de l'orthodoxie. En réalité, il y a une sorte de retour. Alors, ça passe par l'Église grecque plutôt que par l'Église latine, mais à un christianisme théophanique, un christianisme de l'image, qui rejoint ce que vous disiez touchant les derniers écrits. Alors, je suis remarquablement instruit par ce que vous avez démontré à travers cette lettre que vous avez commentée de 1976, c'est bien ça, par le sens politique d'Henri Corbin. Vraiment, d'ailleurs, il faudrait en parler. Le sens politique, en tant qu'il dirige, il a quelque chose, il a une politique qu'il anime, il n'a jamais cessé d'ailleurs d'en avoir une. Et donc, il y a un Zahir, là aussi, il y a un Batin, quand il écrit une lettre, il dit un certain nombre de choses. Quand il parle dans l'intimité, il en dit d'autres, et où il dit les mêmes, mais autrement. Comme vous avez signalé qu'il y a un moment de prudence au début de la lettre, je tiens vraiment les derniers mots que vous avez cités pour un art de la taqiyya de premier ordre, vraiment de la dissimulation politique de premier ordre. Parce qu'en 1976, j'ai eu un long entretien avec lui sur Guénon et j'ai entendu la marée des malédictions. Ça allait depuis ce que vous avez lu, c'est-à-dire, et pour lui c'était rédhibitoire, cet homme n'est pas sérieux, il n'y a jamais eu une référence, sur l'Inde, c'est un tissu d'ânerie, Sylvain Lévy l'a condamné, et d'ailleurs, etc., et bon, et là il faisait des références personnelles à Sylvain Lévy et Maurice Lenhardt encore plus. Massignon a eu 10 fois raison de l'éreinter, et ainsi de suite. Et il m'éprouvait en me demandant si je n'aurais pas tendance à lire Guénon. Comme je lui ai dit que je me moquais perdument de l'œuvre de Guénon, ce qui était parfaitement exact, et que j'étais philosophe et que je tenais par-dessus tout à la philosophie occidentale, il faisait des bonds de cabri, absolument de joie. La raison en était, non pas ce que vous y avez dit, bien au contraire, mais car il était aussi politique avec son entourage parisien qu'avec ce doctorant, il s'agissait de jouer cette affaire d'autorité très finement. Parce que, comme vous l'avez rappelé, le milieu du Shah en Iran est guénonien. L'influence est considérable, c'est pas simplement Nasr, tous. Shayegan a dû vous raconter, tout ce qui peut être, disons, l'empire libéral, quoi, la cour libérale du Shah est guénonienne. Ensuite, Ibn Arabi est devenu progressivement, il en a été dépossédé, parce que Guénon a inspiré les nouvelles lectures d'Ibn Arabi, et quand vous parliez avec Chodkiewicz de la lecture corbinienne, il y avait deux choses. Un, à cause de Corbin, nous avons été arrêtés pendant des dizaines d'années, c'était tellement magnifique que nous ne pouvions pas outrepasser ce qu'il avait dit. Et deux, une hostilité totale, une hostilité complète. Et enfin, il y a le dernier point où il est d'une très grande sagesse politique, il lui faut sauver la philosophie, il est intrinsèquement un philosophe. Henri Corbin, il n'a jamais cédé sur la philosophie, jamais. Alors, il peut dire théosophie, il peut dire gnose, il peut dire tant de choses, mais c'est ça. Enfin, il, pour ça, toutes les allusions à la base, au fondement philosophique, son inquiétude d'avoir des étudiants qui n'auraient pas fait d'études de philosophie, l'incapacité de lire les auteurs mystiques de l'islam sans philosophie, c'est quelque chose qui l'obsédait. Et d'où là, les jugements mais terribles que je l'ai entendu prononcer sur Guénon, pas sérieux, et enfin l'ultime argument, il est coupable d'avoir ignoré les Juifs. Ça, voilà. Il n'y a pas les Juifs, Scholem et moi nous sommes d'accord là-dessus, donc là une accusation très grave, guénonisme égale antisémitisme dans la tradition. Voilà, j'apporte ce renseignement. Mais donc c'était très vif, hein. Très très vif, et un philosémitisme tel chez Corbin, extrêmement puissant, hein. D'ailleurs avec d'origine à la fois des études bibliques et du reste, que là-dessus il insistait, voilà, Guénon a exclu les Juifs, c'est absolument inacceptable.
Là, ce qui n'est pas tout à fait exact, d'ailleurs.
Moi, je ne juge pas, je n'y connais rien, je n'ai jamais lu Guénon, je ne le lis pas. Mais si vous voulez…
c'est intéressant, en tout cas.
Je vous cite Corbin, là.
Oui, ça fait. Et c'est intéressant ce que vous disiez aussi sur le milieu autour du Charles, je crois que d'ailleurs Pierre Loury l'avait invité dans la dépêche. Il y a Marc Sedgwick là, qui a beaucoup travaillé une sorte de micro-histoire pour retracer justement tous ces milieux guédoniens en Iran. Et... Merci beaucoup, en tout cas.
En tout cas, moi, ce que je vois, c'est la politique de Corbin. Mm. Finesse politique, jeu donnant, parce que cette lettre, écrite la même année que cette conversation, c'est assez étrange.
Oui, tout à fait. Fine,
elle, se pas. Enfin,
elle est longue, en tout cas. Enfin, non,
parce que le rapport de force lui est défavorable. Tout est favorable à Guénon. À ses yeux, vraiment, il a été touché. Tout est favorable à Guénon, d'où l'extrême prudence.
Donc en Iran, vous dites tout alors ? Partout.
Le nombre d'électeurs, vous-même, vous l'avez dit, de Queneau, enfin, Guénon est à son zénith. De Queneau à Lacan, enfin tout le monde, donc, y compris les amis de, comme Queneau ou Lacan, qui sont des amis de Corbin.
Extrêmement intéressant, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage.
Oui,
merci beaucoup.
Non, je ne sais pas s'il y a encore une question ou une remarque. Sinon, encore un grand merci pour cet exposé qui a répondu à beaucoup de questions que nous nous posions.